טוב, שלום, עטות. Je ne vous ai pas vu début Adar, donc je vous souhaite Chodesh Mevorach. Nous avons une règle que nos sages nous ont laissée dans la Mishnah, de la même manière que lorsque le mois de Av arrive, on doit diminuer la Simcha. Inversement, lorsque le mois de Adar arrive, il faut augmenter la Simcha. J'ai bien précisé, c'est pas que la Simcha augmente, il faut augmenter. Marbin de Simcha. Loha Simcha mitraba. En hébreu, c'est très précis. Pourquoi c'est important de préciser? Parce que si on ne sait pas cette règle, on a l'impression que dès que le mois de Hadar entre, c'est fini, c'est la Simcha. C'est complètement faux. C'est exactement l'inverse, Chas v'Shalom. Dès que le mois de Hadar arrive, si on ne fait pas un effort supplémentaire d'augmenter la Simcha, on se trouve dans une situation inverse, Chas v'Shalom. Ça veut dire que le mois de Hadar, dans sa racine, est un mois qui est difficile. Et pour justement rééquilibrer notre état normal de Simcha au service d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire un effort supplémentaire pour augmenter la Simcha. D'où est-ce que je sais que c'est un mois difficile? C'est marqué dans la Megillat Esther. V'achodesh hazeh nehepach lahem mi'evel lesaton, le yom tov. C'est-à-dire que c'est un mois qui a commencé difficilement, qui était difficile à son départ, et qu'il fallait inverser. Et là, c'est la deuxième partie de cette règle, c'est que le mois de Hadar contient en lui une énergie spéciale qui lui permet de transformer les choses. C'est-à-dire que, effectivement, sa structure intérieure n'est pas très facile, mais lorsqu'on sait utiliser l'énergie qui circule dans l'univers pendant ce mois de Hadar, on peut inverser le processus et dévoiler la Simcha qui se trouve cachée. Quand je dis que la Simcha n'est pas dans le mois de Hadar, c'est pas qu'elle n'est pas réellement, c'est qu'elle n'est pas dévoilée. Il faut aller la chercher en profondeur. Elle est très très cachée dans les événements de l'histoire. Et quiconque ne fait pas l'effort d'aller la chercher à l'intérieur, elle ne se dévoile pas d'elle-même. Autrement dit, le mois de Hadar fait intervenir l'homme dans le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et l'homme devient en fait un associé qui doit, dans sa structure intérieure, montrer combien il veut. Et donc, dans le mois de Hadar, la structure est une structure de Géoula, mais pas comme celle qu'il y avait à Nissan, où tout était du haut vers le bas, où Akadosh Baruch Hu est descendu entre guillemets vers les hommes, et le travail, complètement le travail a été fait par Akadosh Baruch Hu lui-même. Le mois de Hadar, le travail doit se faire par les hommes. C'est-à-dire que nous devons faire un effort supplémentaire à commencer par augmenter notre état de Simcha et à faire encore d'autres choses que un jour dans l'histoire on aura l'occasion de le faire, c'est-à-dire comme ça s'est passé pour Pourim. Il y a des mitzvot qui sont arrivés dans le monde qui n'étaient pas au départ, comme par exemple Machatzit HaShekel, comme par exemple Mishloach Manot, comme par exemple Matanot LaEvyonim, comme par exemple la Seouda de Pourim, le Mishté de Pourim, la lecture de la Megillah de Pourim. Tous ces degrés-là sont arrivés dans le monde, pas parce que à partir du moment où ils sont là, on va commencer à les faire, non. C'est que Pourim et son énergie existent depuis la création du monde. C'est-à-dire ce moi a été doté de toute cette énergie-là, qui un jour se révélera dans l'histoire telle que ça s'est révélé. Pas inversement. C'est-à-dire, on ne fête pas les fêtes juives parce qu'un jour il s'est passé un événement. Vous comprenez ça? L'événement n'est que la concrétisation d'une énergie qui existe depuis la création. Si on est capable de la décoder, de la déceler, eh bien, on capte cette énergie qui existe depuis toujours. C'est ce que Mordechai et Esther, avec leur qualité d'être à l'écoute, ont pu gagner de ce mois de Hadar et transformer en réalité toute la négativité qui a commencé. D'ailleurs, le premier mot de la Megillah d'Esther est un mot difficile, Vayehi. Et les sages nous disent que quand on commence quelque chose par Vayehi, c'est Oy va'avoy. Et vous voyez qu'au fur et à mesure où on avance dans la Megillah, les choses vont se transformer et s'inverser complètement jusqu'au moment où c'est écrit réellement Venahaforhu, et on a réussi à faire l'inverse. Quoi? Asherichletu ha-Yehudim hema besonehem. Que les Yehudim deviennent plus forts que leurs ennemis. Qui c'est les Yehudim et qui c'est les ennemis? Alors effectivement, au moment où ça s'est passé, c'est les enfants d'Israël et les Perses. Mais aujourd'hui, eh bien, sachez que à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons ce Yehudi et ce sonnet. C'est-à-dire à l'intérieur de notre structure, nous avons le juif, l'homme d'Israël, et nous avons l'ennemi, et il est à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire en sorte que le Yehudi qui est en moi domine l'ennemi qui est en moi, mon propre ennemi. C'est ça le mois de Hadar. C'est-à-dire que je dois arriver à inverser ce processus pour faire dominer le Yehudi sur le sonnet. Au niveau psychologique, c'est très intéressant. Ça veut dire que tous ces acteurs se trouvent à l'intérieur de moi. Et toute cette histoire est en réalité une histoire personnelle de chacun. Bien qu'elle ait réellement été, qu'elle soit une réalité dans l'histoire du peuple d'Israël, elle se reflète aussi dans chaque être. C'est-à-dire qu'en moi, j'ai Achashverosh, en moi, j'ai Haman, avec ses 10 enfants, en moi, j'ai Vashti, en moi, j'ai tout le système là-bas, de la richesse, de l'opulence, des expressions de tout ce que la Megillah nous offre. Et j'ai en même temps en moi Mordechai et Esther. Seulement, Esther est captive. Elle est dans un palais, malgré elle. Elle va là-bas le soir et elle revient le matin. Sans vous faire de dessin ce qui se passe là-bas. Ça veut dire qu'elle est malgré elle dans un système. Et Mordechai qui reste toujours à la porte pour surveiller, c'est en réalité une partie de notre Neshama qui surveille la partie féminine qui, elle, est entre guillemets violée. Donc il faut la sauver, il faut la sortir de là-bas. Après, ça a donné naissance à plein de dessins animés avec des princesses qui sont enfermées dans des châteaux et que le prince charmant doit aller sauver. Et tout ça, c'est notre histoire. Et c'est pas l'histoire historique, c'est l'histoire personnelle de chacun. C'est-à-dire qu'en moi se cache cette belle Esther qui est cachée et qui malheureusement, lorsque je ne sais pas moi l'épouser, elle va épouser quelqu'un d'autre qui se trouve aussi en moi, qui s'appelle Achashverosh, et qui va, Chas v'Shalom, être soumis aux volontés de ce Haman qui est de la source de Amalek. C'est très complexe. Et si je m'endors, eh bien les choses ne se font pas dans le meilleur des mondes. Et c'est pour ça que Mordechai dit à Esther, fais attention, tu n'es pas rentré, si tu es déjà là-bas, c'est pas pour rien. Profite. Et nous aussi, on doit se le dire. Si déjà je suis dans cette angoisse, dans ce moment difficile dans ma vie, il faut que j'utilise ce moment-là pour savoir comment gagner la plus grande énergie qui se cache à l'intérieur. À la fin du processus, la Yehudim Haïta aura Vesimcha. C'est-à-dire que chacun de nous doit sortir vainqueur, finalement, de tout ce combat, de toute cette Megillah qui commence pas très sympathiquement. Et je dois arriver à pendre Haman et ses 10 enfants, c'est-à-dire toute la structure négative qui se trouve dans mon être intérieur. C'est un travail, tout ça. Vous comprenez pourquoi nous devons augmenter le volume de la Simcha pendant le mois de Hadar. Parce qu'apparemment, ce volume baisse de quelques crans. Et si je ne fais pas l'effort d'augmenter la simcha, ben c'est pas équilibré. Ton travail sera chas v'shalom dans une angoisse, dans une perturbation intérieure. Dafka, alors tu te dis, mais je comprends pas, c'est Hadar, je devrais être heureux. Parce qu'on t'a pas dit qu'en réalité, c'est à toi d'augmenter le niveau de la simcha. Toi, tu as l'impression, parce qu'on t'a traduit en français, Michel Nichnas Hadar Marbin de simcha. Chouette, le mois de Hadar, il est arrivé, la simcha arrive avec lui. Non. C'est à toi de la faire venir, cette simcha. Elle est cachée en profondeur. Il faut que tu fasses un effort d'augmenter le volume de cette simcha pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et inutile de vous rappeler que, Chas de Shalom, toutes les choses négatives viennent parce qu'on ne fait pas les choses avec simcha. Même quand on sert à Kadosh Baruch Hu, et surtout quand on sert à Kadosh Baruch Hu, il faut le faire avec un élément de simcha intérieur très, très important. Et si c'est l'inverse qui est en train de dominer mon être en ce moment, c'est-à-dire l'ennemi, celui qui me haït, celui qui me hait, eh bien, il faut que je fasse en sorte que le Yehoudi qui est en moi, cher Ishletu ha-Yehoudim, hema besonel, fais en sorte que le Juif qui est en toi domine l'autre. Et le Juif, c'est celui qui sait reconnaître. Yehoudi, milachon Yehuda, modé, modé ami. Et donc, si tu es capable de voir cela, eh bien, ça se passe comme ça. En réalité, nous sommes dans un équilibre terrible. Vous prenez d'un côté les deux acteurs principaux, Achashverosh et Haman. Vous prenez de l'autre côté les deux adversaires, qui sont en réalité notre étang, Mordechai et Esther. Et tenez-vous bien, c'est exactement la même valeur numérique. C'est incroyable. C'est-à-dire Mordechai et Esther d'un côté, Achashverosh et Haman avec les lettres. J'ai fait le compte, c'est exactement les mêmes lettres.
Et Mordechai et puis
Esther. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement, ça veut dire que nous avons en réalité un combat contre nous-mêmes. C'est une valeur absolue que nous avons en nous. Et c'est seulement toi, et toi seul, qui peux lui donner un signe plus ou un signe moins.
Tu veux dire en travaillant sur toi? Alors,
en travaillant sur soi pour essayer de voir le côté positif de la chose, c'est-à-dire faire un signe plus à ta vie. Mais si tu laisses faire, c'est une valeur absolue, c'est la même puissance. Elle peut se dévoiler ou comme Mordechai et Esther, ou comme Achashverosh et Haman. C'est à toi de choisir dans ta vie. C'est terrible. Et c'est pas par hasard qu'en réalité, nous avons en réalité comme deux boucs, rappelez-vous, Yom HaKippourim. Un, c'est les mêmes identiques. Un, il va au Azazel et l'autre, il va pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça vous rappelle rien? Qui pourim, que moi pourim. C'est la même chose. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons ici un travail de choix, de libre arbitre, de savoir faire un effort sur soi pendant le mois de Hadar pour ne pas que tous les éléments environnants qui sont là pour nous angoisser, pour nous éteindre, pour nous dégoûter, pour nous mettre dans un état de déprime, Chas de Shalom prenne le dessus. Donc il faut faire un effort supplémentaire. Quel est Javier là?
Tu dis qu'il faut faire un effort pour augmenter la simcha.
Quel?
Pour Dieu.
Je n'ai pas dit pour Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Toi, tu es trop religieux. Non, j'ai dit qu'il fallait faire un effort de simcha tout simplement pour la vie. Akadosh Baruch Hu, lui, il est toujours là. Mais est-ce qu'il t'utilise pour te traverser? Bien, il ne peut pas te traverser parce que tu fais blocage. C'est tout ce que j'ai dit. La simcha, ça ouvre. L'angoisse, ça ferme. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas passer chez un angoissé et il passe chez quelqu'un de joyeux. C'est tout. Ça veut dire, plus on est ouvert dans la simcha, plus on permet à des éléments de l'infini de nous traverser. Nachon, Nachon, alors c'est pour ça qu'il vous a envoyé un chiour de Yoel. Donc il vous a aidé. Vous voyez qu'il vous aide, il pense à vous. Qu'est-ce? Il y a une question là-bas au fond. Notre essence est positive, mais lorsqu'on est dans ce monde, puisqu'il cache plus, donc l'équilibre se garde. Par exemple, quelqu'un de pur touche quelqu'un d'impur. Qu'est-ce qui va se passer? Le pur va devenir impur ou l'impur va devenir pur?
Le pur va devenir impur.
Pourquoi? Vous avez jamais posé la question, c'est pas normal. Si moi je suis pur et je touche quelqu'un d'impur, je devrais le rendre pur. Dans l'essence, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, puisqu'il y a une domination de l'extinction des choses, on ne voit pas les choses clairement, eh bien, le grand gagnant, apparemment, c'est le côté négatif. C'est pour ça qu'il faut faire un effort supplémentaire. Mais dans l'absolu, c'est l'inverse. Si le pur touche l'impur, bien, c'est l'impur qui devient pur. Parce que dans l'absolu, c'est comme ça. La lumière gagne. Mais dans la réalité telle que nous la vivons aujourd'hui, on a plus tendance à partir dans le moins que dans le plus. C'est-à-dire la plupart des gens tombent plus facilement dans la tristesse que dans la joie. D'accord ? C'est pas normal. Donc il faut savoir pourquoi il faut faire un effort supplémentaire pendant ce mois de Hadar. Donc le mois de Hadar porte en lui la combinaison gagnante. C'est-à-dire une maison qui contient l'unité divine. Aleph qui rentre dans le Dar, dans la maison. Okay? Dar en hébreu, comme en arabe, c'est la maison. Donc fais rentrer du Aleph dans ta maison, c'est tout. Fais rentrer ton unité divine dans ta maison. Aleph, Dar, Hadar. Mais si tu ne fais pas ça, phrase de Shalom, il y a un problème. Tu inverses les lettres, ça devient Ered. Je vais phrase de Shalom règne vers la descente. Okay? Donc c'est ou d'un côté ou de l'autre. C'est les mêmes lettres. Le mois de Hadar s'écrit Aleph, Dalet, Resh. Vous découpez juste en deux, vous mettez le Aleph, il reste Dar. Dar veut dire une maison. Efratadgar, Efratadar, Dira Sheli. D'accord ? Fais rentrer le Aleph, la Kadosh Baruch Hu, dans la maison. C'est tout.
Et comment ça devient Ered ? Je comprends pas.
Ered. Pas Ered. Ered. C'est les mêmes lettres que Hadar à l'envers, c'est-à-dire une descente. C'est-à-dire où tu montes ou tu descends. C'est la même valeur absolue, encore une fois. Vous savez ce que c'est une valeur absolue? C'est une force qui n'a pas de signe. C'est à vous de donner le signe. C'est ça une valeur absolue. Donc tout est mis en valeur absolue dans ce monde. Et c'est à vous de choisir de mettre à votre vie un signe plus ou un signe moins. C'est tout. Bien fait. Bien fait. Et puisque vous avez touché ce point, j'ai commencé par citer une Mishnah. J'ai dit que Keshem Sheni Shenichnas Av Memaatim Besimcha. C'est-à-dire ça, c'est le pendant. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au mois de Av? Il faut baisser le curseur de la Simcha. Mais en réalité, c'est toujours de la Simcha. On n'a pas dit de devenir triste pendant le mois de Av. Les gens qui ne comprennent pas ça, ils se disent, mois de Av, l'angoisse. Non. On t'a dit au contraire de baisser la simcha, sous-entendu que la simcha là-bas, elle est très haute. Mais comme le temple n'a pas tenu, eh bien pour l'instant on baisse le niveau de la simcha. Mais en réalité, c'est le mois où la simcha est la plus grande. D'ailleurs c'est le papa de tous les mois. C'est pour ça qu'on appelle Av. C'est-à-dire, il y a même une imitation à ce grand papa, un petit papa. Comment on dit un petit papa? Aviv. C'est Pessah. Toi, tu as l'impression que Pessah, c'est lui. Non, c'est Aviv, c'est Abakatan. Aviv, un petit Av. Mais en réalité, dans l'absolu, le mois de Av, il n'y a pas plus grand.
On dit que la charte est
une grande valeur. Tiens, c'est pour ça qu'il est né. Okay. Donc, en réalité, il y a quelques degrés ici, qu'il faut bien bien se mettre en place. Alors, ce mois est donc sous le signe de la capacité que nous devons développer en nous à recevoir. Là, j'introduis quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la première Géoula, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais est-ce qu'on l'a véritablement subi? On n'a pas acheté notre Géoula parce qu'on n'était pas réellement acteur de notre propre délivrance, puisque tout s'est fait miraculeusement. Donc, moi, j'ai pas vraiment ma place. J'ai juste décidé, c'est important quand même, de sortir. Mais de facto, J'ai pas fait grand chose. Alors que dans la Megillah d'Esther, il est écrit que pendant le mois de Hadar, qui blou, qui mouve et qui blou hayéoudim alehim. C'est-à-dire, c'est un mois où on a reçu finalement ce qui nous a été donné. Et là donc il y a un grand décalage entre le fait que lui soit donneur et que moi je sois receveur. Lui donne, mais moi je n'ai pas encore reçu. De quoi je parle? De la Torah. La Torah nous a été donnée 50 jours après la sortie d'Égypte, mais nous, nous ne l'avons pas reçue. Au Mont Sinaï, on nous a donné la Torah. Ne confondez pas les mots, c'est tout est précis. Quel? Il est écrit dans nos Sidurim, à Hadashavuot, en fait, le don de la Torah, il y a marqué Zman Matan Toratenu. Il n'y a pas marqué Zman Kabbalah. On n'a pas reçu. Un seul a reçu la Torah. Moshe Kibel Torah Mishinan. Alors si lui Kibel, tout entendu, les autres non. Alors quand est-ce qu'on l'a reçu? 1000 ans plus tard, à l'histoire de Pourri. C'est-à-dire que ce qui a été donné 1000 ans auparavant n'a été reçu que 1000 ans après. Autrement dit, un décalage de 1000 ans entre notre capacité, entre son don à lui, à Kadosh Baruch Hu, et notre capacité d'intégrer ce qu'il nous donne.
Même si on l'accepte.
Même si on l'accepte. On l'accepte parce qu'on l'a mis la montagne par-dessus. Même de force. Mais c'est ça la montagne par-dessus. C'est ça qui a été dit là-bas. Autrement dit, quand vous allez, par exemple, écouter... Mais sans être réellement reçu. C'est-à-dire, je peux faire des choses parce que je suis robotisé par la lumière. Mais je ne suis pas encore dans le réceptacle réel. Pour être receveur, je dois vouloir et pouvoir vouloir, c'est-à-dire être libre. Tant que je ne suis pas libre, je ne peux pas réellement recevoir.
D'accord ?
À l'histoire de Pourri. Dans la Megillah Tester. C'est marqué dans la Megillah, je vous ai cité le verset. Kimou ve kiblou. Et les Chachamim nous disent dans la Gemara, Kimou Arshav, Kiblou Arshav, ma shekvar kiblou ma
natnolaem. Donc il fallait passer par son jeûne pour recevoir la Torah.
Bien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de Hadar a une capacité en lui, une énergie spéciale en lui, qui nous permet de recevoir. Et pas seulement qu'on nous donne. Autrement dit, vous devez maintenant, ce mois-ci, changer votre structure intérieure psychologique. Arrêtez d'être seulement passif. Quelqu'un vous donne et vous, vous êtes là. On vous verse dessus. On vous balance des gouttes de Kedusha sur la tête. Devenez receveuse, receveur. Devenez des Kelim. C'est-à-dire, pour être un Kli, j'ai dit tout à l'heure, il faut vouloir. S'il n'y a pas de rassol, il n'y a pas de royauté divine sur terre.
On reçoit d'année en année, peut-être.
C'est pas grave, ça veut dire chaque année, tu augmentes ton désir de recevoir et tu l'aiguises et il devient de plus en plus structuré. C'est comme si tu me disais, chaque année j'ai mon anniversaire, alors qu'il se passe rien. Tu viens de me dire la même chose. Pourtant, il y a quand même une évolution, non? Entre la Hana d'il y a 60 ans et la Hana de maintenant. Okay. Alors, il y a fait. Non. C'est ça le problème. C'est que malheureusement, dans ce monde, on a oublié en réalité d'être des réceptacles. C'est-à-dire, on est tous plus dans une structure « je donne », mais en réalité, vous ne savez plus recevoir. Alors qu'en réalité, il y a un problème. Par notre naissance, c'est-à-dire naturellement, nous sommes receveurs. C'est à Kadosh Baruch Hu, le grand donneur. Donc si je ne sais pas recevoir, si je n'apprends pas la réception des choses, comment est-ce que je peux réellement donner? Moralité, il faut étudier la réception. Comment ça s'est pris? Ça fait qu'il se dit en hébreu? Kabbalah. Donc il faut étudier la Kabbalah. Ça veut dire que quand on étudie à recevoir, je joue sur les mots, c'est la vérité. On ne sait pas recevoir, tout simplement. Même si je vous fais un compliment maintenant, vous ne savez pas le recevoir. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué. Vous avez honte, vous avez machin, vous avez truc. Ken, je vous dis, c'est super ce que tu as fait, tu dis, ah non, ça va. Pourquoi non? Je viens de te dire un compliment. Ken? Non, c'est pas d'humilité. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, sauf de l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité ne dit pas que je ne sais pas où je suis. L'humilité doit respecter ma place. C'est-à-dire, je peux être humble. Qu'est-ce que c'est être humble? C'est de savoir que ce que j'ai, je l'ai reçu par Akadosh Baruch Hu et par le travail qui m'a permis de faire. Mais je n'ai pas le droit de dire que je n'ai pas. C'est-à-dire que si Graviela, elle me téléphone, à chaque fois elle me dit il y a un cours, je lui dis non. C'est une fausse humilité. Pourquoi? Parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné le pouvoir de parler et de transmettre un message par ma parole. Et si je dis non, soi-disant parce que je suis humble, c'est de la fausse humilité. Tout simplement, je me sauve de ma responsabilité.
Oui.
Bien fait. Micha? D'accord. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut apprendre la réception. Donc le mois de Hadar doit être focalisé complètement sur la réception, sur comment je peux recevoir les choses. Kimu vekiblu hayoudim alehem. Je traduis ça au niveau donc de l'être. Il faut que je fasse un travail pour savoir où est la véritable humilité et où est ma place. Mon cher Rabbeinu écrit de lui-même Vehaish Moshe Anav Meod. Et l'homme Moshe est le plus humble de tous les hommes de la terre. C'est de l'humilité ou de l'orgueil? Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce qu'il est en train d'écrire, il est tellement dans la conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné, mais il dit pas, non, Akadosh Baruch Hu, je peux pas écrire ça quand même. Il l'écrit. Mais il nous le dit à nous aussi. C'est-à-dire que Moshe était tout simplement à l'écoute. Donc il était réceptif. Donc il avait construit en lui son élément qui lui permet de recevoir les choses. Moshe Kibel. Donc le véritable receveur dans ce monde, c'est Moshe. Imitez Moshe et devenez de véritables récipients. Non? Matériellement aussi? Alors il faut savoir recevoir le cadeau. Il faut recevoir le cadeau. Non, c'est pas vrai. Si par exemple j'ouvre un restaurant et je t'invite le premier jour que tu viens pour payer, je te dis non, laisse tomber, on est des amis quand même. Demain tu reviens, tu vas pour payer, je te dis non. Je te garantis que tu reviens même plus. Pourquoi? Parce que tu as honte, il y a fait. Ce ressentiment, ce sentiment de honte, ça prouve qu'en réalité, tu veux recevoir à condition que toi-même tu donnes. Ça veut dire que nous avons une structure intérieure qui nous permet quand même d'être sain. Donc tu vois bien que c'est pas comme ça. Un enfant, parce que tu viens de me dire, c'est un enfant. Un enfant, lui, il reçoit, il prend tout. Mais en réalité, on demande à l'enfant de grandir, il ne faut pas qu'il reste. Alors au départ, je reçois pour recevoir. Bien? Donne rien à l'enfant. Après, on lui explique un petit peu à un certain âge, tu sais, c'est bien de partager. Ah bon? Alors il commence à tout donner. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Ça aussi, c'est pas bien. Mais on attend de lui de grandir encore un peu. Ah, il dit quoi? Alors qu'est-ce que je dois faire? Écoute, alors j'évolue et je finis par comprendre que toute ma réception est pour donner. Et ça, c'est la structure normale. C'est-à-dire que je reçois, j'accepte que je suis à la base quelqu'un qui reçoit, parce que j'ai été créé comme receveur, mais j'ai appris à recevoir. C'est-à-dire, je reçois avec l'intention de partager. Ça, c'est le tikkun. Quand vous écoutez un cours, si vous l'écoutez juste pour vous maintenant, c'est un degré. Mais si vous l'écoutez pour l'enseigner, c'est un autre degré. D'ailleurs, même votre écoute va changer.
Ah oui.
Ça veut dire que quand j'ai des élèves, et les élèves, ça s'arrête à eux le cours que je leur donne, je sais que leur réception est limitée. C'est comme ma poche. Il ne faut pas mettre plus que ce qu'elle peut contenir. Mais si je sais que la poche est trouée, entre guillemets, tout ce que je mets, ça continue. Donc cet élève, il est meilleur encore que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus un cli avec un fond, il est un cli qui est comme un canal, c'est-à-dire je fais passer par lui et lui continue à donner. Ça s'appelle un sinon. Donc vous inversez le mot ratson, ça devient sinon. C'est tout. Un canal, un tuyau. Et c'est ça ce que nous devons faire dans notre vie. Parce que c'est la malchoute. Oui. Bevadaï. Nous sommes une génération qui est capable d'entendre des choses qui étaient dans des générations d'avant du l'ordre du secret, de l'ordre du secret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes plus disponibles à cette écoute. C'est pour ça qu'on peut parler à un autre niveau à cette génération. Il faut arrêter de lui parler comme des générations d'avant. Si le temps a changé, on a évolué, on a souffert, on a passé des traumatismes, et au niveau collectif et au niveau individuel, ça nous a mûri et ça nous fait travailler. Quand on est sorti d'Égypte, comment est-ce possible qu'on reçoive la Torah? Tout simplement parce que tout l'esclavage là-bas nous a nettoyés en réalité. On est arrivé à certains degrés. Et ça aussi, ça suffit pas. Encore, il faut 50 jours s'éloigner suffisamment de l'Égypte pour recevoir la Torah. Et là aussi, on la reçoit pas, puisque c'est Dieu qui la donne. Il faut encore 1000 ans. Autrement dit, quand vous écoutez un cours, les sages nous disent une règle, j'espère que ça ne vous fera pas peur. En Adam yored le sof da'at rabbo et la arbaim shana achrei moto. Un homme ne comprend pas les paroles de son maître seulement après que son maître soit mort 40 ans. Ça veut dire, après 40 ans de la disparition du maître, tu te dis, oh là là, maintenant je comprends ce qu'il voulait me dire. C'est ça que ça veut dire.
Okay.
Je parle pas avec... Tu vois, moi aussi j'ai honte. Okay. Donc, et il faut comprendre que ça se passe comme ça. Okay. C'est la même chose. C'est-à-dire, il y a toujours un décalage entre le donneur de la chose et le fait qu'on la reçoive. D'accord ? Donc, quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, quand vous avez quelque chose, une information qui est importante dans votre vie, c'est pas forcé que vous la compreniez immédiatement. Alors, qu'est-ce que je fais en attendant? Il y a 1000 ans. Eh bien, je continue à vivre. C'est-à-dire, je dis pas non. Tant que je ne suis pas receveur, eh bien, je ne suis pas receveur, je bloque tout. Non. Tu vis la chose, et au fur et à mesure que tu la vis, tu vas commencer à l'intégrer. Donc, les choses vont s'imprégner en toi au fur et à mesure que tu avances. Parce qu'imaginez-vous qu'à chaque fois qu'on a un petit blocage psychologique, on arrête tout. On ne peut pas vivre. On a tous des petits blocages, des petites portes qu'il faut ouvrir, des fenêtres qu'il faut ouvrir, un machin, on est obligé d'avancer. Donc on avance, et en marchant, on corrige. Tout en marchant. Il ne faut pas s'arrêter de marcher. Quel, c'est ça le secret. Quel? On est tout le temps en marche, tout le temps en démarche, tout le temps en évolution, tout le temps en perfectibilité. Et je règle mes problèmes en avançant. C'est pour ça que les sages nous racontent que lorsqu'ils faisaient un cours, le rav et les élèves marchaient. Ils étaient toujours en marche. Tu te dis, mais attends, jamais ils s'installent. Aujourd'hui, l'étude de la Torah, c'est toujours en yeshiva. Alors que dans les textes, c'est toujours en halicha. Ça veut dire qu'on a perdu un petit peu de ce mouvement, de cette dynamique. De la marche, de la démarche, et on est un petit peu plus assis, en réalité, ça montre aussi une faiblesse. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre debout aujourd'hui. Okay. Pourquoi? Parce que l'homme, en réalité, c'est un homme qui est debout. C'est là notre différence avec les animaux, qui sont à l'horizontale, alors que nous sommes à la verticale. De temps en temps, on doit se mettre aussi à l'horizontale. Parce que nous avons un degré animal qui est en nous. D'accord. C'est clair? Alors, dans tout ce que je viens de dire, c'est juste l'introduction. Mais je vous ai déjà mis les balises, donc on va les retrouver tout de suite. Pour qu'Akadosh Baruch Hu descende dans ce monde, je précise, descende, il ne se déplace pas, c'est-à-dire pour qu'il révèle ses valeurs, il n'y a pas de déplacement, Dieu n'est pas limité pour se déplacer de là-bas à ici. Donc le dévoilement, quand je dis descendre, pour que Dieu se dévoile dans ce monde, il faut 3 phases. Il faut d'abord qu'il y ait une adresse, c'est la première des choses. Quelle est l'adresse? L'adresse, elle a déjà été prévue avant la création du monde, elle s'appelle Israël. Ça veut dire à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu veut envoyer une lettre au monde, il marque sur la lettre Ikhvod Israël. Après, vous faites ce que vous avez à faire avec cette lettre. Mais c'est nous qui recevons le courrier. Il y a une seule boîte aux lettres dans ce monde, c'est Israël. Et au niveau peuple, et au niveau terre, et au niveau temps, temporel. Mais on y arrive. Maintenant, pour que cette adresse, je puisse la trouver, parce que je sais qu'elle existe, mais où est-ce qu'elle est, il faut que je la trie. Parce qu'elle est mélangée au départ avec d'autres adresses. C'est le peuple juif en Égypte. Donc la première phase du dévoilement d'Hachem, c'est de me trier d'une autre adresse qui n'est pas la bonne, Égypte, et Israël se trouve à l'intérieur. Donc il va y avoir un tri, ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim. Donc je vais sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, donc j'ai mon adresse. Mais, c'est pas terminé. Parce que je suis sorti d'Égypte, mais je suis pas encore indépendant. C'est pas parce que tu es sorti de la France que tu as arrêté d'être français. Quand tu es sorti d'Égypte, tu as encore une mentalité égyptienne. Donc il faut que tu retrouves ta propre identité. Sinon, comment je peux t'envoyer? Tu vas pas savoir que c'est pour toi. Chaque fois que tu recevras une lettre, tu vas dire c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Comme le compliment que je viens de donner. Pas pour moi, c'est pour l'autre. C'est un problème. Donc il faut s'éloigner suffisamment de l'ancienne adresse, de la mauvaise adresse qui s'appelle Mitzrayim. Et combien c'est suffisamment? Bien, le maximum possible que la nature m'étouffe. La nature, elle est basée sur le chiffre 7. Donc je dois m'éloigner de l'Égypte, toute la structure naturelle, quand elle ne sait pas dévoiler Dieu. Donc 7 fois 7. C'est-à-dire, je dois m'éloigner d'Égypte suffisamment, c'est-à-dire de 49 degrés. Pas par hasard que la Torah est donnée le 50e jour. C'est-à-dire, quand je me suis suffisamment éloigné de l'Égypte, je commence à recevoir le message. C'est bizarre. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah le 50e jour? Oui ou non? Je vous pose la question, est-ce que Dieu a donné la Torah 50 jours après la sortie d'Égypte?
Il l'a donné
avant. Où est-ce qu'il l'a donné avant?
Abraham, il connaissait déjà. Abraham, il connaissait.
Je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'une fois qu'on est terminé le don de la Torah au Har Sinaï, les gens sont rentrés chez eux, Nachon? Le soir même. Ils sont partis dormir.
Oui.
Nachon? Ça s'est arrêté? C'est des questions bizarres que je vous pose. Ni 48, ni 20, ni 30, ni 10, ni 7, ni 49. Tout le temps. Akadosh Baruch Hu est le donneur de la Torah depuis l'infini des temps jusqu'à l'infini des temps. Ça ne change rien. C'est pour ça qu'il est tous les matins tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah au présent. Pas Nathan, un jour il a donné, il s'est arrêté de la donner parce qu'il avait un autre rendez-vous le soir. Alors que s'est-il passé? Eh bien toi, parce que tu t'es éloigné assez de la mauvaise adresse Égypte, tu es arrivé à la 50e journée à l'écoute, à une certaine écoute. Donc tu as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à émettre une émission seulement le 50e jour. Mais c'est faux, c'est toi qui t'es branché à la radio. Mais la radio, elle marche tout le temps. Maintenant, vous êtes dans cette classe, dans cette synagogue, mais la radio, elle continue de marcher, d'accord? Mais vous n'êtes pas branché, donc vous n'entendez pas l'émission. Mais eux n'ont pas arrêté d'émettre. Akadosh Baruch Hu n'arrête jamais en émission. Toi, de temps en temps, tu es à la hauteur pour percevoir. Tu entends quelques mots. Mais comme tu ne sais pas encore recevoir à cette époque-là, tu entends... Vous captez des fois comme ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un problème, quoi. C'est un coup, ça capte, comme il a dit l'autre, un coup, ça capte pas. Tiens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de qui? De moi. C'est la capacité de capter, pas de l'émission. L'émission, elle donne tout le temps. Akadosh Baruch Hu, il est dans l'émission totale. Alors ça, c'était la deuxième partie. Malgré tout, on a quand même réussi à capter quelques bribes. On a fait les 10 paroles. On les a entendues, on les a vues. Donc ça nous fait revenir à qui, à notre véritable identité. C'est-à-dire on nous a dit, bon maintenant tu es sorti d'Égypte, tu n'es pas l'autre. Mais tu n'es pas encore toi-même. Alors quand est-ce que je deviens moi-même? Quand je reçois mon identité. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu me révèle dans la Torah qui je suis réellement. Donc la Torah c'est moi. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte, qu'il a réussi à faire un contact et qu'il nous a donné cette identité, nous, puisque nous sommes faibles et qu'on rentre ce soir dans la tente, et on va dormir, on se dit, bon, l'émission, c'est sympa. Aujourd'hui, on a eu un événement son et lumière. Magnifique. Mais il est 8h du soir, ça s'est terminé déjà. Pour nous, ça s'est terminé. Mais en réalité, c'est faux. Car je vous continue de donner. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est-à-dire, le lendemain matin du don de la Torah, la femme, elle se réveille le matin, n'est-il à Yadai? Il n'y a plus rien, c'est le silence total. Alors quoi? C'est une angoisse. Hier, on a eu la Torah et maintenant, c'est le silence. Mettez-vous dans la peau de cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle dit, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible. C'était tellement fort, j'ai envie que ça continue. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Troisième phase, le Mishkan. C'est pour ça qu'on construit le Mishkan. Le Mishkan, c'est en réalité pour continuer d'avoir ce contact avec l'émission divine, continuellement, constamment, sans que ça s'arrête. Ça, c'est le Mishkan, c'est-à-dire les mêmes paroles qui sont émises par Akadosh Baruch Hu, maintenant je vais les entendre sortir entre les deux chérubins du Mishkan. Donc en réalité, on a gagné encore un pas. Rappelez-vous, on est sorti d'Égypte. On nous a donné, rappelé en tout cas notre identité, et maintenant on veut que le contact soit permanent. C'est pour ça que j'ai appelé ce cours les trois phases du dévoilement. Tant qu'on n'a pas ces trois phases-là, ça ne s'arrête, ça peut pas marcher. Et même cette troisième phase, le Mishkan appelé, il est démontable, il est pliable. Quand on avance, on doit marcher, on s'arrête encore une station, on le remonte. Et après, quand on rentre en Eretz Israël, alors il va servir un tout petit peu, quand même quelques bonnes années, 392 ans, 13 ans, à Shiloh. Il n'y a pas qu'à Shiloh, entre autres. Et après 480 années de la sortie d'Égypte, on va construire un Beit Mikdash. Cette fois-ci, avec des pierres. Il n'y avait pas la pierre dans le désert. Il n'y avait que des bois, des tentures, d'accord? Et de l'or et de l'argent pour les ustensiles. Mais de la pierre, non. La pierre, c'est un élément nouveau. Pourquoi? Parce qu'on arrive en Eretz Israël. Et pourquoi c'est un élément nouveau? Parce qu'Akadosh Baruch Hu descend encore plus bas. C'est-à-dire qu'il s'approche encore plus de nous. Parce que quand il est dans le végétal, c'est encore quelque chose de lointain. Mais la pierre, le minéral, il faut le faire quand même. Akadosh Baruch Hu s'habille maintenant dans le minéral. Ça veut dire qu'il s'habille dans tous les éléments de notre vie. Et même ce premier Beit Mikdash, ça ne marche pas. Il est détruit. Alors il faut qu'on attende le deuxième Beit Mikdash. Et au moment du deuxième Beit Mikdash, c'est-à-dire après 70 ans d'exil, nous sommes dans l'histoire de la Megillat Esther. Vous avez compris maintenant, je vous ai fait le travail de l'histoire. Que vous sachiez quand est-ce que c'est né cette histoire-là, Bichlal. C'est pourri, c'est sympathique, mais tu ne sais même pas de quoi ça parle. Eh bien, c'est tout simplement après la destruction du premier temple, 70 ans sont passés, tu veux reconstruire le deuxième temple. Eh bien, juste avant de reconstruire le deuxième temple, apparaît tout le système de Amalek. Celui qui veut empêcher, en fait, le peuple d'Israël d'avoir un contact permanent avec Akadosh Baruch Hu. Donc, que fait-il? Tout ce qu'il peut pour empêcher Israël de revenir à la maison. C'est-à-dire qu'à chaque fin de série de systèmes, il y a un nouveau Amalek qui se dresse parce que le peuple d'Israël est en train de revenir et donc il va tout faire pour refroidir ce retour. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans encore une phase nouvelle, la dernière, Bezrat Hashem, avant le dévoilement total. Et c'est pour ça que la force de Amalek sort toutes ses forces maintenant pour empêcher nos frères de venir rejoindre cette terre. Et il utilise même des personnages importants qui leur disent ne bouge pas. C'est péché. Okay. Même le poisson, il est péché. Okay. Mais c'est un problème très grave. Un problème très grave. C'est-à-dire que Amalek réussit encore une fois son coup. Et il faut qu'on fasse tout, nous, Ezrat Hashem, pour essayer de faire comprendre le schéma. Parce qu'en réalité, on retombe toujours dans le même schéma. C'est toujours le même problème. On nous a juste changé les données. C'est tout. C'est plus les mêmes acteurs. Et toi, tu as l'impression que c'est encore une nouvelle histoire, autre chose. Mais tu comprends pas que ça revient toujours. Tu es toujours en train de tomber dans le même système, dans la même erreur. Tu comprends pas. Et ça, c'est tout ce qu'on doit travailler maintenant. Donc, ces trois phases-là, sortie d'Égypte, retrouvailles avec notre identité, c'est-à-dire Matan Torah, Mishkan, Shrina. Shrina, présence divine dans ce monde, c'est-à-dire voisinage avec ces valeurs de l'infini, constamment. Donc j'entends l'émission. Je vous ai dit tout à l'heure que l'émission sortait entre les deux chérubins. Ces deux chérubins étaient d'un seul bloc. C'est-à-dire que même si tu vois deux, en réalité c'est deux qui sortent d'un. Autrement dit, tu ne peux pas entendre la parole divine si elle ne vient pas de l'unité ou d'une unité quelconque. Donc jamais, jamais, la parole d'Akadosh Baruch Hu ne pourra sortir d'un homme seul s'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui est comme sa femme, ou comme son élève, comme ses élèves, pour être un contre. C'est pour ça que la Torah doit toujours sortir de deux, d'entre deux. Zachar et Nekeva, mâle et femelle. Et les deux chérubins étaient sous forme de mâle et femelle, un garçon et une fille, et la parole sortait entre les deux. Ça veut dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu sort dans la tension d'amour qui règne entre les deux parties du couple. Et c'est ça qu'il faut. Quand je dis couple, je n'ai pas dit seulement homme et sa femme. J'ai parlé aussi d'un rave avec ses élèves, de moi avec moi. Okay, faire attention. Parce qu'à l'intérieur de moi-même, il y a encore une partie de moi-même. Et j'ai une partie masculine qui est en moi, qui est dominante, c'est pour ça que je suis homme, mais j'ai aussi une partie féminine. Et je dois la respecter aussi, elle est dedans. Donc dans la tension entre ces deux parties, la voix d'Akadosh Baruch Hu peut sortir, comme mes deux bronches ici, qui en réalité sont comme les deux chérubins, les Chachamim, et donc la parole divine, le souffle sort entre les deux. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes un Beth Mikdash au niveau humain. Et d'ailleurs, c'est dit dans le prophète Jérémie, « Heichal Hashem Hema ». C'est vous, vous devenez un sanctuaire. Vous êtes en réalité, et je reviens à nos premiers amours, un kli. Tu deviens un kli, un réceptacle. Donc tu comprends ça, tu commences à comprendre comment recevoir la parole de Kadosh Baruch Hu. Donc tu commences toi-même à devenir un émetteur, un petit émetteur de la grande émission. Okay? Quand il y a une grande émission, il y a des petits capteurs, vous ne les voyez pas, ils sont dans la ville, ils reçoivent la grande émission, après ils vous la font passer. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire nous sommes ces petits capteurs dans la ville, qui devons recevoir de la grande émission pour faire passer le message, pour qu'il soit encore clair, même quand je rentre dans un petit fond d'escalier. Sinon, le grand émetteur, Ken, n'arrive pas, entre guillemets. C'est pas qu'il n'arrive pas, il a choisi un système comme ça. Donc, moralité, nous devenons tous des capteurs de cette énergie pour la faire véhiculer. Alors ça, c'est tout le secret. Maintenant, vous comprenez, on a jusqu'à midi, c'est ça ? Vous comprenez qu'en réalité, ces trois charnières dans l'évolution, ce sont trois charnières qui sont très importantes. Pourquoi je dis ça ? Parce que certaines personnes pensent que le temple, le Mishkan, n'est venu que parce qu'il y a eu la faute du Vaudor. C'est une des manières de penser. Pourquoi ? Parce que selon réellement ce qui s'est passé au niveau du temps, effectivement, le veau d'or s'est passé avant le Mishkan. Avant. Avant le Mishkan. Donc, les gens se sont dit, si il y a faute du veau d'or, eh bien, il va falloir faire un système pour corriger. Donc le Mishkan n'est qu'un élément de correction à la faute du Vaudor. Alors que dans le texte de la Torah, c'est l'inverse. Incroyable. C'est-à-dire que avant que la faute du Vaudor ne soit faite, on lit déjà qu'Akadosh Baruch Hu demande de construire le Mishkan. Alors comment ça se passe?
Pardon, il
n'a
pas été construit après le dit. Le Mishkan, il a donné les instructions après le 10 Tishri.
Oui, mais je parle maintenant par rapport à la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, elle s'est passée quand?
Elle s'est passée après que la Torah a été donnée.
Bien fait. Ça veut dire la Torah a été donnée quand?
Le 6 Sivan.
Non, c'est pas, la Torah n'a pas été donnée le 6 Sivan. Ça, c'est les paroles de la Torah. Je parle des tables.
Ah, des tables à Moshe Rabbeinu.
Oui.
Bon, les 17 Tammuz.
Bien fait. Mais ça s'est cassé. Il a fait. Donc en réalité, elles se sont cassées pourquoi?
À cause de Vaudor.
Voilà, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que cette faute du Vaudor nous a empêchés en réalité de recevoir réellement les tables. Donc il fallait que Moshe remonte. Et combien de fois il est monté, il est descendu? 3 fois. Ça veut dire qu'il est resté combien de temps en haut? 120 jours. 3 fois 40. Ça 120 ans. Bien 120 jours, il est resté. Donc, je parle de ça, moi. Moi, je parle du fait que est-ce que nous avons reçu l'ordre de construire un Mishkan parce qu'il y a eu la faute? Ou bien avant? Bien avant. On vient de lire dans la paracha de Teruma et de Tetzavé.
Mais c'est pas après les justement après qu'il soit monté la
troisième. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est sorti d'Égypte, on vient de sortir d'Égypte, non? On a lu la sortie d'Égypte, il y a combien de parachutes? Rien, 3 à 4 parachutes, c'est rien. Nachon, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, ça y est, Trouma. Donc, 6 semaines, entre guillemets, de lecture, on est déjà dans l'ordre de donner pour faire le Mishkan. C'est la sortie d'Égypte, c'est la première année, c'est la même année. C'est quelques mois après la sortie d'Égypte, immédiatement. Donc ceux qui pensent que le Mishkan n'est que pour réparer les fautes, en réalité, quel est leur style de judaïsme? C'est quoi le style de développement au niveau psychologique de quelqu'un? Qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, en réalité, c'est pour réparer une faute. Et il est tout le temps dans la faute. Sa seule référence, c'est la faute. Il est tout le temps dans, pour corriger quelque chose. Okay? C'est pas la tchouva. Mais c'est un tikkun qui est dans le sens négatif. C'est-à-dire que tu es toujours avec une référence du mal en face des yeux. Donc tu es toujours en train de te sauver du mal. Ça s'appelle tsur mera. Je me sauve du mal. Mais il y a une deuxième partie. À cet ordre, est-ce que toi tu as investi dans quelque chose? Est-ce que c'est positif dans ta vie? Il faut que tu arrêtes de te sauver d'éléments qui sont négatifs pour toi. C'est pas comme ça qu'on vit toute la journée. Ça, c'est bien une partie de sa vie, de se sauver de certains degrés. Mais est-ce que tu vas vers certains degrés dans ta vie? Ça, c'est autre chose. C'est notre niveau. Est-ce que vous allez dans votre vie vers la lumière? Ou est-ce que vous vous sauvez tout le temps, constamment du noir? Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est au niveau psychologique, c'est très simple. C'est-à-dire que je peux développer dans ma vie un système où tout le temps j'évite des choses négatives. C'est tout ce que je fais toute ma vie. Je me sauve de cette compagnie, je me sauve de cette femme, je me sauve de ce mari, je me sauve de ces élèves, je me sauve de cette école, je me sauve de ce pays, je me sauve de la France, je me sauve des... Est-ce que tu vas vers Israël? Est-ce que tu vas vers la lumière? Est-ce que tu vas vers... Arrête de te sauver toute la journée! Enfin, toute la journée, on fait le bilan de ta vie... T'as évité tous les pièges, magnifique, champion du monde. Mais t'as été où? Ah, j'en sais rien, moi, je ne m'occupe pas d'aller quelque part. Moi, juste, j'évite.
Mais c'est de la lâcheté.
C'est pas de la lâcheté. C'est une partie du travail. Mais ce n'est pas tout le travail. C'est-à-dire, à chaque fois que tu sors d'un problème, il faut que tu aies dans l'idée d'aller vers une solution. Arrête de te sauver de problèmes sans aller vers des solutions. C'est-à-dire que ceux qui sortent d'Égypte, mais qui n'ont pas en tête d'aller sur la terre d'Israël, ben ils sont bloqués dans un système juste où ils sortent toute la journée d'Égypte, donc ils se sauvent d'Égypte. Donc ils ont développé un système psychologique de sauver, sauver, sauver. Donc qu'est-ce qu'ils ont en face de la figure toute la journée? Que du négatif, duquel ils doivent se sauver. Donc en réalité, leur vie, un écran de leur vie, c'est un écran négatif duquel ils ont pu échapper. Et à la fin de leur vie, on leur fait un bilan, « Oh, tu as vu tout ce que j'ai évité quand même ?» Nachon, magnifique. Mais tu as été où? Nulle part. Tu n'avais même pas le temps, parce que quand tu vas vers quelque chose, quelle est la référence que tu as en face de Dieu? Le bon. La lumière. Alors que quand tu fuis le mal, quelle est ta seule référence? Le mal. Donc, Yetziat Mitzrayim, ça ne suffit pas. Il faut sortir d'Égypte. Mais il faut aller vers. Dame Ain Bata, ou les An Ataholer. Et ça, c'est un système chez nous. Les psychologues doivent recevoir des gens comme ça. Ou sans arrêt, il faut les sortir de situation. Mais il faut leur apprendre à aller vers une lumière, vers une stabilité. Tu ne peux pas toute ta vie te sauver d'eux. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais en réalité. Mais en réalité, il faut savoir que à chaque fois que je fais un pas de quitter quelque chose, je vais vers. C'est comme ça qu'il faut travailler. Dans chaque petit pas dans ta vie. J'ai quitté mon atelier pour venir donner un cours. Mais si toute ma tête, j'ai quitté là-bas, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon machin, j'ai quitté. C'est toute la journée dans le Yahatra. Il y a des gens qui vivent toute la journée dans le passé. Okay. Alors les Tunisiens, ils ont l'impression qu'ils sont toujours à Tunis. Les Algériens, Yahasra, comment c'était là-bas. Et les Marocains, pareil. C'est pas une vie, arrêtez. Vous êtes coincés dans un système du passé. C'est vrai que ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas tout. C'est une partie. T'es sorti de là-bas pour venir vers. Arrête sans arrêt de retomber là-bas. Ça te rappelle ta capture qui est dans ton traumatisme, qui est tout le temps dans le trauma. Pas dans la trauma. C'est un problème. Donc il faut commencer à aller vers. Et ça, c'est un fonctionnement spirituel, psychologique qu'il faut développer dans notre être. C'est un travail. C'est de ça que j'ai dit tout à l'heure, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Parce que quand tu as un lendemain, quand tu as un but à atteindre, quand tu as un rêve, je traduis ça maintenant avec d'autres notions, bien, seuls les rêveurs vivent. Il ne faut pas arrêter de rêver, pas seulement dans le sommeil la nuit, de rêver. Est-ce que vous avez des ambitions, des rêves dans votre vie, même si vous êtes âgé? C'est ça qui fait vivre. Beshuv Hashem et Shivat Tzion Aynu Kecholmim, si j'arrête de rêver, je suis mort. D'ailleurs, les sages, même au niveau le plus premier niveau, nous disent, si tu dors pas 3 jours, on l'oblige à dormir. Pourquoi? Pour qu'il rêve. Parce que quelqu'un qui ne va pas dormir, en fait, on dort pas pour se reposer, on dort pour rêver. C'est encore un cours à part. Et même, on va pas dormir pour dormir. C'est des bêtises. C'est-à-dire, si à chaque fois que tu rêves pendant ton sommeil, je te réveille, au bout de 3 jours, tu es presque mort. Donc, en fait, on dort que pour une seule chose. Pour rêver. Pour permettre au système du mouvement, aujourd'hui on peut le voir, qu'avec le mouvement rapide des yeux, au moment où tu rêves, on peut savoir. Mais si Chas v'Shalom vous réveillez quelqu'un, chaque fois qu'il commence à rêver, ben vous le tuez. Au bout de 3 jours, il est mort. Tous ses muscles n'arrivent plus à aller, il est complètement dans le cirage. Donc en réalité, on doit rêver. Et au niveau réel, physiologique, et au niveau de notre vie. Tout est donné pour le rêveur. Parce que le rêveur est en voie de guérison. Donc en réalité, c'est fort parce que tu rêves. Donc le mot chalom, c'est les mêmes lettres que les achlim, guérir. C'est tout. Tu ne guéris que parce que tu rêves. C'est tout. Et si tu arrêtes de faire ça, tu es dans l'inverse de chalom, c'est-à-dire l'ochem, tu rentres en guerre tout le temps. Tu es tout le temps en guerre. C'est les mêmes racines, les mêmes lettres. Milchama. C'est achlama, c'est la guérison. Milchama, c'est la guerre. Toujours pareil. Donc en réalité, il faut que tu saches d'arrêter d'être en guerre toute la journée. C'est tout le temps en guerre contre quelque chose, arrête. Avant tout, ça c'est le premier problème. Okay. Maintenant, ça c'est le secret. Donc, issu de ça, vous avez tous les jeux de mots, okay, du pain, l'echem, qu'il faut tremper dans le mélar, qui sont les mêmes lettres. Donc c'est toujours la même chose. Donc tu dois tout le temps être dans le même système pour garder le cholam, c'est-à-dire la valeur de cette lumière. Shalom. L'achlim. Guérison. Ça veut dire qu'en réalité, d'après cette vision des choses qui n'est pas la vision que nous voulons développer, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, je peux plus rien avec vous, vous êtes trop fort pour moi. C'est-à-dire le monde et vous est à la catastrophe, donc je tombe moi-même, Akadosh Baruch Hu, dans le niveau des hommes et je ne peux plus m'en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est faible d'après cette chita-là et qu'il ne peut pas dominer son monde. Ça veut dire que le monde lui est sorti des mains, d'entre les mains. Il n'arrive plus à le diriger, il n'arrive plus à le dominer, il n'arrive plus à le contenir. Alors qu'en réalité, okay, tu tombes dans un mouvement où tu as besoin d'un système pour te rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est là. Donc c'est un système primitif où tu as besoin d'un temple, d'un sanctuaire pour voir Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un Mishkan qui est Bedi Avad. C'est-à-dire Bedi Avad a posteriori. C'est-à-dire parce que nous sommes tombés. Et pas les Khatrila a priori, c'est-à-dire parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait un système qui s'appelle le Mishkan. Donc en réalité, si le Mishkan n'est que a posteriori, ça veut dire qu'il n'est pas un idéal en soi. Il y a un problème avec ça. Hein? C'est tout simplement parce que l'existence exige un système comme ça, parce qu'on est tombé dans un système, donc maintenant on doit se débrouiller avec. Donc Akadosh Baruch Hu réfléchit, il dit qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, faites un Mishkan, on va se débrouiller comme ça. C'est pas ça, Chas v'Shalom. Okay. Alors que nous pensons, dans le système de pensée de la Chassidoute et de la Kabbalah, du Rav Kook, okay, que toute cette théorie est fausse. Et qu'en réalité, il y a un but prophétique, divin, okay, qui est bien avant la faute, aucun rapport avec la faute, d'avoir une présence divine dans ce monde sous la forme du Mishkan. D'accord? C'est quelque chose qui est voulu par Akadosh Baruch Hu, et d'ailleurs, on le dit dans la sortie d'Égypte, Shirat Hayam, quand on a chanté dans la mer, qu'est-ce qu'on dit? Tevi'emo vetitsa'emo, tu vas les faire sortir, maintenant ils sont sortis d'Égypte, ça fait une semaine qu'ils sont sortis, parce que quand on est dans la plage, dans la mer, on est une semaine après. Tevi'emo vetitsa'emo behar nachalatra, c'est-à-dire, tu vas nous amener, tu vas nous conduire à Jérusalem, à la montagne de Tanachala, là où tu résides. Alors, ne me racontez pas de salade que ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était juste pour recevoir la Torah. Ils le disent dans le chant prophétique de la Shira, « Machon leshivtecha » jusqu'au moment où tu vas t'installer à Kadosh Baruch Hu, « Pa'alta Hashem » avec ta force d'action, « Mikdash Hashem konenu yadecha » et que tu nous construises le Beth Amikdash. Donc voilà. Ça veut dire que même dans le champ prophétique de la Shirat Hayam, on a déjà prévu, parce que c'était prophétique, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers nous, qu'il y a un Beth Amikdash, qu'il y a quelque chose, le Khatrila, pas Bediabat, pas a posteriori, c'est a priori. Ça veut dire que au sommet même de notre perception des choses telles que c'était au moment de la traversée de la mer, on a déjà touché, on a déjà goûté au Beth Amikdash. On a vu le Beth Amikdash là-bas. Et c'est sorti en forme de prophétie collective. Tout le monde a prophétisé en même temps. Parce qu'on n'a pas distribué des feuilles. Moshe n'a pas fait des photocopies pour distribuer les paroles de la chanson. Tout le monde a chanté en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une névoie, une prophétie collective. Et imaginez-vous quand maintenant je vous dise, vous chantez à partir de maintenant le même air, les mêmes paroles. D'où vous savez? Si vous êtes prophète, oui. Sinon, c'est du charabia, c'est n'importe quoi. Chacun va dire ce qu'il a envie. Et bien c'est ce qui s'est passé au moment de la sortie. Et si dans cette prophétie collective de la nation tout entière, pas de ceux qui sont seulement vivants maintenant et visibles. Il y a marqué que même les bébés, les fœtus dans le ventre de la mère ont dit la même chanson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend même pas de l'éducation que tu vas lui donner ou pas. C'est quelque chose d'inné à l'intérieur de son être. Tout le monde a dit Shira. Ça veut dire quoi? Et dans cette Shira, il y a marqué quoi? Tu nous amèneras sur la terre d'Israël et tu nous reconstruiras le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux me dire que le but de la sortie d'Égypte, c'est de s'arrêter au mont Sinaï? Mais comment non? Et la plupart des gens qui ne veulent pas monter en Israël, c'est ce qu'ils disent? Parce que si c'est la Torah qui compte seulement, tu peux la faire à Paris. Donc la Torah aurait dû se terminer dans le livre de Shemot à la paracha de Yitro. Le don de la Torah, Nigmar HaSipur. Je peux rester maintenant à Barcelone, à New York ou à Bagdad. Mais ce n'est pas le but. C'est pas le but, c'est marqué nulle part. Pourquoi vous inventez? Pourquoi vous mentez à vos enfants? Vous n'avez pas peur de mentir aux générations suivantes? Comment tu peux permettre d'enseigner la Torah et de mentir, de tromper? C'est très grave. Ça, c'est la tahlit. C'est-à-dire qu'en réalité, on est ici dans un système d'évolution, et je termine avec ça, en revenant au mois de Hadar. C'est bizarre qu'on lise toutes ces parachiotes du Mishkan au mois de Hadar. Toujours. C'est une règle. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre le temps, Hadar, et la lecture de la Torah que je suis en train de lire. Quel est le rapport? Tout simplement, Aleph, Dar. Je veux faire en sorte que l'infini, que l'unité divine descende dans ce monde. Alors comment ça se passe dans la Torah? Le Mishkan, ou le Beth Amigdash. C'est-à-dire que mon but, mon rêve, c'est le troisième temple aujourd'hui. Il ne faut pas sombrer dans les problèmes politiques et tu te dis, mais comment on va avoir un troisième temple avec toute cette panique qui se passe ici? Tiens, toi, fais ce que tu as à faire. Les choses évoluent malgré nous et la vie est beaucoup plus forte que nos pensées à nous et que nos petits chiourines. Akadosh Baruch Hu, il a un bulldozer infini qui avance, c'est tout. Toi, participe à cette avancée. C'est tout. Tu peux même pas bloquer le système. Rien ne peut bloquer le système. Tu peux ou participer, ou Chas v'Shalom te sortir du système. C'est tout. Tu peux aller maintenant aller vivre, en, je sais pas où, en Guadeloupe, et sortir du système et faire ta vie tranquille, le matin, les cocotiers et la plage avec un petit musique reggae. C'est tout. Mais si tu veux participer, attention, c'est très dur. Tu vas avoir une tension ici que tu n'auras pas ailleurs. Mais c'est une tension qui, parce qu'il y a un courant infini qui passe par toi. Alors c'est vrai que c'est difficile de supporter, de temps en temps on n'en peut plus. Alors il faut aller à des shiurim, il faut se parler entre nous, il faut essayer de se renforcer, parce qu'on est dans la dernière ligne droite de ce grand bulldozer, et ce n'est pas le moment d'arrêter. Il ne faut pas arrêter de rêver. Il ne faut pas, Chas v'Shalom, mentir à nos enfants en leur disant que l'essentiel, c'est de recevoir la Torah et c'est fini. C'est l'anachon. La Torah et le Mikdash. La Torah et la Malchut. C'est-à-dire que nous devons être dans un système qui respecte ces deux données pour réussir notre vie. Et tout ça, c'est cette réception des valeurs de l'infini qui sont capables d'être faites dans le mois de Hadar. Et pour arriver à Pourim, parce que c'est là-bas où la chose va se passer, c'est-à-dire à Pourim, vous devez vous fabriquer, vous préparer pour devenir les meilleurs réceptacles possibles. À condition que le grand gêneur soit dégagé avant, Amalek. C'est pour ça que ce Shabbat, avant Pourim, il va falloir dégager Amalek. Donc vous avez l'obligation d'aller écouter, pas seulement la lecture, parce que là vous montrez combien vous êtes religieuse, mais je ne parle pas de ça. Pas seulement d'aller écouter le passage, d'aller écouter le passage et de l'imprégner, de vous imprégner de ce passage, de ce qui est marqué là-bas. Comment Amalek peut m'empêcher d'arriver à devenir un véritable récipient? Parce qu'il a une certaine force maléfique qui peut casser ce système. Donc il faut savoir de quelle matière il est fabriqué pour pouvoir le combattre. C'est pour ça qu'on doit lire et étudier cette source de Amalek. Une fois qu'on l'a dégagé, on peut rentrer à Purim avec la simcha de la réception de la lumière. Toda Rabba. Prochain client maintenant, peut-être.
J'ai posé la question, mais je voudrais votre avis.
Ah.
Comment tu fais tu
mon avis
oui.
J'ai pas encore de l'avis, mais.
Non, je voudrais savoir. Les filles d'Israël, la fille, ou la fille de votre frère, ou la femme, comme on dit, comment se fait-il que vous suivez à God? Pour moi, qu'il est les rois, mais les gods.
D'accord. Ça veut dire que. Et comment est-ce que vous expliquez que 4 cinquièmes de notre peuple est encore dans le palais d'Angoy? Hein? Que les juifs sont aux États-Unis, en France, au Canada et ailleurs. C'est pas Esther dans le palais d'Achashverosh? C'est la même chose. Elle est enfermée là-bas, elle est violée par lui.
Donc elle a été à...
Joël, on vit ses cours.
Merci beaucoup.